Bonjour à tous les auditeurs de Radio Aligre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Nathalie.
Voilà, Isabelle Raviolo, Nathalie Perrin pour l'émission Philosophie au présent, un partenariat entre Radio Aligre et le Collège international de philosophie. Vous aurez pu remarquer que nous démarrons avec un petit peu de retard. Nous avons des techniciens absolument fabuleux. Isabelle, veux-tu leur donner leur prénom ? Ils sont en train de se démener derrière la cabine pour essayer de tout rétablir.
C'est... Oui, Nathalie, on a des problèmes techniques, chers auditeurs. Nous en sommes désolés, mais avec Axel et Tom, nous essayons de résoudre ces problèmes et du moins, nous pouvons enregistrer l'émission.
Voilà, et voilà, au moins, si jamais on complétera toutes les petites imperfections, et puis on mettra ça, tout ça en podcast sur le Collège international de philosophie et Radio Aligre. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Je m'occupe bientôt de mettre les émissions sur le site. Je vais le faire. Bon, on est ravis de retrouver nos auditeurs de Radio Aligre. Merci d'être à notre écoute aujourd'hui. Voilà pour une émission qui va être forcément un tout petit peu plus courte parce qu'on a un petit peu de retard, mais c'est pas grave, on fait avec. Et on voulait parler aujourd'hui de peut-être d'essayer de différencier l'écologie et la question de l'écosophie. Voilà, peut-être en faisant un petit clin d'œil, un hommage philosophico-psychanalytique deleuzo-guattarien à notamment Félix Guattari, qui est l'auteur finalement, ou le réinventeur pourrait-on dire, de l'idée d'écologie au sens d'une écosophie. Hein, on sera peut-être amené à terminer l'émission là-dessus.
Oui.
Donc on peut préciser d'emblée vers quoi on est renvoyé quand on parle de l'écosophie qui se différencierait de l'écologie. Alors il faut savoir que l'écosophie, c'est un concept, une idée qui a été forgée par un certain Arne Naes, N-A-E-2-S, à l'université d'Oslo dans les années 60, au début des années 60. Et c'est un mouvement, au début, c'est un mouvement de l'écologie dite profonde. Hein. Donc on voit, on va voir d'emblée qu'il s'agira là d'un renversement des perspectives de l'écologie et qui va mettre au centre de cette réflexion, quelque chose qui nous intéresse depuis le début, parce que ça circule un peu dans nos thématiques, c'est vraiment la question de du renversement de l'anthropocentrisme. En effet, Isabelle, on pourrait dire que et c'est la force de l'écosophie, notamment avec Félix Guattari, mais en tout cas, au départ même, avec cet auteur Arne Naes, dont je citerai quelque chose tout à l'heure, il y a vraiment cette idée qu'on ne va pas en rester seulement à la question de l'environnement, mais vraiment à venir questionner la position de l'homme et de l'humanité en général dans son environnement, mais aussi dans son habitat, et je dirais même dans qu'est-ce que c'est qu'être humain, en fait.
Hein ? Oui, et de manière presque plus pragmatique, Nathalie, on pourrait questionner le rapport de l'homme à la technique. Oui. Aujourd'hui, nous sommes environnés de machines. D'ailleurs, les bugs nous empêchent peut-être même de travailler, puisque étant tellement reliés aux machines, le métier que nous pouvons exercer, quel qu'il soit aujourd'hui, en passe par un ordinateur, une tablette, un iPhone, des câbles ou des chargeurs. Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce rapport de l'homme à la technique, se joue la question que tu soulevais quand tu parlais, Nathalie, de ce qu'est un homme devant ces outils qu'il ne cesse de perfectionner, qui requièrent de plus en plus de matériaux complexes qui nous échappent dans la complexité de leur fonctionnement, si bien que l'homme finit par se déposséder de quelque chose de lui-même qu'il me semble essentiel de rappeler à cette émission aujourd'hui, puisqu'il est question d'écosophie. Ce quelque chose d'essentiel, j'ose dire qu'il s'agit là de la liberté de l'homme. Si tant est qu'on puisse dire de la liberté qu'elle n'est pas seulement réduite à un libre arbitre, mais qu'elle se construit dès l'amont, c'est-à-dire dès la conscience de ce que peut signifier qu'être soi-même libre, c'est-à-dire libéré des liens qui nous enchaînent à une réalité que nous ne pouvons pas saisir, puisqu'elle nous dessaisit de quelque chose qui nous est propre. Et ce quelque chose qui nous est propre, c'est ce qu'on va essayer de cerner aujourd'hui dans cette émission à travers des auteurs, de Hans Jonas en passant par Félix Guattari ou encore Günther Anders ou Hannah Arendt, autant de penseurs qui ont réfléchi à cette question de l'homme et à ce rapport que l'homme peut avoir au temps et à l'espace, à lui-même et aux autres, au monde et à son monde intérieur, dès lors qu'il est finalement pris dans des réseaux, dans des fils, dans des connexions qui finissent peut-être par le déconnecter de lui-même ou de cette sphère intérieure qui, au fond, le détermine.
Oui, oui, absolument. On voit bien, d'après ce que tu dis, c'est que vraiment, bon, au sein de cette question de l'écosophie, il y a donc la question de l'homme, qu'est-ce que c'est qu'être humain ? Et on voit bien que la liberté, ça n'est pas une essence, hein. Il va très vite de dire que l'homme est, oui. Que dans la nature de l'homme figure la liberté. On voit bien avec ce que tu as dit que la liberté, c'est avant tout une libération, quand tu parlais d'un pragmatisme, hein, et au centre de l'écosophie, il y a vraiment cette idée de toujours être moins dans quelque chose qui semble là, être déjà là, la liberté, hein, qui nous définirait en propre, mais dans une volonté de se libérer, c'est-à-dire de faire fonctionner son esprit critique, notamment par rapport à toute cette technologie, hein, qui nous envahit. On n'est plus dans la technique artisanale, hein, ou finalement qui est une prolongation de notre humanité, et presque d'ailleurs une invention, une réinvention au sens de l'art, mais où finalement on se perd soi-même. Bon, alors on voit bien que dans l'écosophie, il y a la question éminente de l'humanité. Mais peut-être, alors on voit bien que dans la question de l'écosophie, il y a aussi la question de l'habitat. Peut-être faudrait-il repartir du grec oikos, hein, qui signifie économie, loi, et donc économie, habiter la maison également, hein, comment on gère sa maison, hein. Il y a vraiment au centre même de l'oikos, hein, l'idée de comment je vais habiter, comment je vais gérer, comment je vais réfléchir à mon habitat, ma maison.
Oui, c'est très important, là, ce que tu dis, Nathalie, parce que nos auditeurs peuvent être sensibles à cette étymologie, dès lors que oikos renvoie, comme tu le dis très bien, à la maison, et que, dans ce que je disais, le problème, c'est de cerner, avec sa conscience intime, quelle est notre maison de fond pour bâtir cette maison extérieure commune qui est la société, pour bâtir nos maisons de pierre, ne faut-il pas d'abord peut-être que l'homme écoute cette voix intérieure de la conscience, hein, qui l'appelle à bâtir sa maison intérieure. Et de quoi il retourne quand on parle de maison intérieure ? Est-ce qu'elle se situe ici ou là, dans cet espace intérieur qu'on pourrait définir comme étant l'âme ? C'est difficile à dire, parce que dès lors qu'on la situe, cette maison intérieure, on risque finalement de l'essentialiser. Je pense que dans l'exigence d'une conscience intime de soi, des autres, il y a la part de l'origine. Et cette part de l'origine, elle est le rapport intime que l'homme peut avoir avec cette origine de l'humanité, qui n'est pas située dans l'histoire ou dans une atemporalité, mais qui est davantage la conscience de venir de quelqu'un d'autre. Et cette conscience de venir de quelqu'un d'autre, de ses parents, de ses ancêtres, de l'Homo sapiens, pour parler de manière plus générale, c'est s'inscrire dans le processus d'une filiation. Et cette inscription de l'homme dans une dynamique ou un process, c'est précisément cet homme qui défie le fameux transhumanisme dont on parle beaucoup, à savoir l'homme qui serait né de lui-même, ou qui serait né tout seul, ou qui ferait naître un autre individu tout seul. Donc pour finalement habiter sa maison intime, et la maison avec les autres, qu'il s'agisse d'une société, d'un pays, d'une patrie ou de la terre, eh bien, il est d'abord urgent de revenir à son propre habitat, c'est-à-dire de penser cette maison intime dans un lien à ce qu'on n'est pas et à ce qu'on n'a pas. C'est pour ça qu'il y va davantage d'une maison à construire avec cette intime conscience de l'homme qui partage cette humanité avec les autres, donc de tout un passé, Nathalie,
oui.
Mais aussi, avec Hans Jonas, nous pouvons redéfinir l'écosophie par une éthique du futur, mais aussi donc avec ceux qui n'existent pas.
Tout à fait.
Pas encore, les générations futures.
Tout à fait. Alors, en t'entendant parler, quand on regarde un peu, quand on réfléchit un peu à la racine oikos, bon, qui est l'économie, qui est la loi de la maison, qui concerne l'habitat, c'est-à-dire comment je réfléchis à ce qui, à la manière que je veux d'habiter ce monde. On voit bien là, on retombe sur nos pieds un petit peu, puisque finalement, il faudrait qu'on ressorte un petit peu de cette heure avec nos auditeurs, en se disant que l'écosophie est peut-être plus que l'écologie politique aujourd'hui, hein, qui ne pense pas véritablement ces questions-là. Le terme d'écosophie est tellement plus important, et notamment chez Guattari, où vraiment, il s'agit de défaire une certaine idée de l'humanité. Hein. Quand je disais tout au début, renversement de perspective anthropocentriste, je songe immédiatement, alors on peut penser à Montaigne, mais en tout cas de manière générale, un peu à l'ethnologie, à l'anthropologie, qui nous a montré des manières d'habiter ce monde. Or là, ce dont on se rend compte, hein, c'est que finalement, ces manières d'habiter le monde, hein, quand on songe à ces sociétés dites primitives, ces sociétés que l'on plaçait hors de l'histoire, puisque non étatiques, avec une absence de l'économie telle que l'Occident a pu la pratiquer très tôt, on plaçait ces sociétés hors de l'histoire, hors d'une temporalité du progrès et de la civilisation avec un grand C. Or, c'est peut-être elles, avec leur économie de subsistance, avec leur justement le faire avec l'environnement, c'est peut-être elle qui avait, alors pour reprendre un peu la nostalgie de Montaigne, qui avait finalement raison, qui avait vu, sans le savoir, bien avant nous,
ouais.
Savoir vivre avec ce qui nous entoure, en ne voulant pas progresser à tout prix. Donc il y a bien au cœur de cette question de l'écosophie la question de ce qu'il en est de cet homme qu'on a érigé comme un modèle, hein, et qui est un modèle alors que Pascal avait critiqué en son temps, en critiquant le fameux moi cartésien. Hein, cet homme majeur, hein, qui se dit majoritaire, et qui, au nom de sa supériorité, hein, de ce concept de progrès, a finalement mis en péril l'habitat mondial. Alors je songe là, mais je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais à cette fameuse mathesis universalis de Descartes, se rendre comme maître et possesseur de la nature, hein, alors, qui peut se comprendre dans la perspective de Descartes comme une manière de finalement remettre au centre de la pensée l'humanité, dans ce qu'elle a de plus pertinent, à savoir sa capacité de penser de manière rationnelle et de se détacher de la nature, mais à quel prix ? Au prix d'une métrique, hein, du métrone, hein, de la maîtriser, de la quadriller, et finalement, alors, à vouloir la dominer, mais avec les conséquences que l'on voit aujourd'hui.
Oui.
Donc, vraiment, l'écosophie, c'est la remise en question de cette humanité qui a pris le pas sur une autre, d'une certaine manière.
C'est une sagesse, Sophia, hein, de la maison, c'est-à-dire une limite à ce Prométhée déchaîné qui semble repousser toujours plus loin les innovations. Et c'est là qu'on peut se demander si dans ces innovations et ces produits de la technique consommés sans frein, il y va vraiment d'un progrès.
Tout à fait.
Que veut dire le mot progrès? C'est une question qui apparaît en filigrane de ce que tu viens de dire, Nathalie, puisque l'homme, dès le XVIIe siècle, pensait un sens de l'histoire qui va prendre toute son ampleur avec Immanuel Kant et la téléologie du XVIIIe siècle et de façon plus large du siècle des Lumières. Et là, on peut interroger cette rationalisation qui commence à l'âge classique, avec l'idée d'un homme comme maître et possesseur de la nature, et l'idée d'une pensée qu'on a faite ou érigée en lisant d'une certaine manière René Descartes. Parce que je ne crois pas que lui-même ait dit ce qu'on lui a fait dire. C'est très riche, la pensée de Descartes, et je ne suis pas une spécialiste, mais ce que j'en retiens au terme de nombreuses lectures, c'est quand même aussi ce très beau texte du Traité des passions de l'âme sur la générosité. L'article 153 du Traité des passions de l'âme pose que l'homme généreux est un homme qui s'estime son juste prix. Donc d'une certaine manière, le dernier Descartes, si je puis parler ainsi, c'est un Descartes qui répond à la princesse Élisabeth et qui rédige ce traité des passions de l'âme qui le rapproche d'un Pascal. C'est plus tellement le Descartes du discours de la méthode, c'est un Descartes aussi qui pose que s'il y a une pensée mathématicienne, calculante, rationnelle, qui fait de l'objet du monde un objet d'étude, à cerner, comprendre. Le fond de l'homme reste relié à cette origine dont je parlais, c'est-à-dire qu'il n'est pas à lui-même son propre principe.
Oui.
Et ça, c'est très important, parce que cet homme généreux, ce n'est pas un homme orgueilleux, et on a trop voulu faire de Descartes le moi tout-puissant qu'il n'a jamais érigé lui-même. Au fond, l'orgueil de l'homme vient de cette formidable manière qu'il a, je dirais, de se centrer sur lui-même en posant que l'idéal du souverain bien qui fonde l'éthique, c'est un homme qui n'a besoin de rien d'autre que de lui-même pour exister, dans le solipsisme d'une conscience dont Descartes s'est bien gardé, puisqu'il rompt avec ce solipsisme dans les méditations métaphysiques, et qui finalement pose le bonheur comme un bien-être. Et ce bien-être, au détriment des autres et de tous les autres, de l'autre homme, du prochain, mais de tous les autres êtres vivants dont il prend les territoires, dont il casse les chaînes alimentaires et des ressources naturelles qu'il épuise. Et finalement, on en revient toujours au même, c'est-à-dire à cet homme qui décide par lui-même de ce qu'il faut être, de ce qu'il faut avoir, sans penser aux autres. Alors ça semble un béaba, mais c'est un béaba dont très peu ont conscience aujourd'hui. Quand on analyse les guerres, sans aller dans le détail dont je serais bien incapable, mais il y va toujours d'enjeux d'avoir et ce qu'on veut de l'autre, au bénéfice d'une, d'une recherche d'accumulation ou d'une toute-puissance, c'est toujours cet homme qui n'arrive pas à partager, cet homme qui n'arrive pas à penser l'écosophie, c'est-à-dire qui pense l'oikos, la maison,
comme la domination.
Comme la domination.
Absolument.
Et donc ce que toi tu as, moi je le veux, et c'est des guerres sans fin, et c'est le problème d'un malaise dans la culture, pour reprendre le titre de Freud, c'est-à-dire la violence de l'homme, le mal qu'il habite.
Oui, ou alors pourrait-on dire, une pensée de l'État ou un agissement de l'État, d'une politique qui s'allie à l'économie Et voilà, enfin, la guerre, elle vient d'abord et avant toute chose d'un État qui, comme tu l'as dit à l'instant, cherche à avoir. Bon, on le voit bien aujourd'hui. Donc on est vraiment là aussi dans une dimension politique, c'est-à-dire...
Oui, voilà. C'est une dimension politique, mais c'est intéressant parce que on pourrait croire que le discours que je tiens, il est complètement idéaliste et on peut se dire elle n'a pas conscience des réalités, de la géostratégie, de l'économie, toutes ces formes de disciplines complexes qui supposent, c'est vrai, une science pour en parler de manière claire et distincte. Reste que je pense que par-delà les complexités des disciplines qui sont en jeu ici, il y a toujours une trame de fond très simple. Mais ce simple-là, souvent, on ne le voit pas. Et qu'est-ce que c'est que cette trame très simple ? Eh bien, c'est ce qui fait l'homme en tant qu'il est relié aux autres. Et souvent, cet homme qui est appelé dans sa responsabilité à se relier aux autres, s'en coupe, et au nom de quoi ? Eh bien souvent d'un orgueil, d'un pouvoir, d'un appétit de pouvoir, et d'une perte de conscience que finalement il n'est que pour autant qu'il lâche prise, c'est-à-dire qu'il se dépossède. Et cet homme orgueilleux qui cherche à avoir et à posséder, finalement, ne peut pas laisser place aux autres. C'est un homme qui n'arrive plus à aimer.
Oui, oui, tout à fait. Absolument. Donc là, on va faire une toute petite pause avant de reprendre, parce que nos techniciens adorés nous ont dit qu'une première musique était possible. Oui, vous nous confirmez qu'une première musique est possible. Alors moi, j'ai choisi aujourd'hui le groupe Tinariwen. Voilà, ce sont des Touaregs du désert. Il y a quelques années, ils avaient d'ailleurs subi une fatwa. Voilà, c'est du blues Touareg. Je vous fais écouter, nous vous faisons écouter aujourd'hui à Radio Aligre, une première musique, Ténéré Tahal. Eh bien voilà, nous avons écouté un groupe que moi j'adore, hein, c'est le blues, du blues du Sahara. Voilà, c'est le groupe Tinariwen qui est connu, hein, il est passé il y a quelques années à Paris. On espère le revoir bientôt et on a écouté là une chanson qui concerne le désert, puisque ce désert qui fait l'âme Touareg est convoité notamment par les grandes sociétés voilà, qui veulent prendre toute la frontière du sud avec l'Algérie et le Mali, voilà, qui veulent prendre toutes ces terres-là pour les richesses que contiennent ces terres du désert. Ténéré, hein, ça veut dire le désert. Donc c'est une chanson là aussi sur leur habitat naturel qui disparaît, hein, et leur manière de vivre, hein. Il suffit d'aller regarder les clips de Tinariwen, hein. J'invite les auditeurs à regarder notamment l'art du thé des Touareg, hein, dans le désert. C'est tout un mode de vie qui disparaît. Alors on avait une petite discussion hors antenne, Isabelle, et je revenais moi à cette question de l'écosophie qui vient questionner une certaine humanité qui se veut dominante et supérieure. Du coup, avec la question de l'écosophie, on touche aux questions très actuelles en ce moment de la philosophie qu'on a appelée le décolonial ou le post-colonial, où il y a une volonté de remettre à plat cette humanité qui a été pensée sous le grand concept d'ethnocentrisme appartenant à une certaine géographie du monde, pour ne pas dire l'Occident. Donc au centre vraiment de l'écosophie, il y a eu un renversement des valeurs, et notamment la première des valeurs, celle de l'homme. Oui. Qu'en est-il de l'homme, de cet homme qui a dominé? On a évoqué trop rapidement les essais de Montaigne tout à l'heure. Le premier a pensé notamment un relativisme culturel, enfin en tout cas une des cultures qui doivent être regardées par non pas d'un point de vue supérieur, mais d'un point de vue, on pourrait dire, d'immanence. Parce qu'en fait, ce qui se joue dans l'écosophie, c'est vraiment une position qu'on souhaiterait non transcendante d'une humanité sur d'autres. Oui. Autrement dit, l'humanité, elle est plurielle. Or, ce qui se joue dans la politique anti-écologique et donc anti-écosophique, c'est vraiment la disparition du divers, en fait, de la diversité, qui commence aussi par des modes de vie divers. On parlait à l'instant des Touaregs. On pourrait citer aussi ces sociétés primitives, dites primitives en tout cas, qui sont en train petit à petit de quitter notre planète, puisqu'on détruit leur habitat au nom précisément d'une économie, hein, et d'État qui donnent leur aval, hein, avec nos votes, à des politiques économiques qui viennent détruire ces habitats.
Oui, l'uniformisation que tu soulignes, c'est une manière de faire le jeu de ces grandes puissances qui, comme tu le dis très justement, font passer sous couvert de grands mots, mais c'est très pervers, hein, vision ethnocentrique de l'homme, avec une langue unique, le globish, avec la disparition des diversités culturelles, avec un homme qui aussi disparaît sous discours de technoprophètes, hein, et des discours transhumanistes qui nous font croire que l'homme augmenté, c'est l'homme de demain. L'homme augmenté, l'homme qui ne souffre plus, qui n'est plus malade, qui ne vieillit plus, et pourquoi pas qui ne meurt plus. Au fond, un homme coupé de ses racines ou du passé, tel que je le disais avant la chanson, l'homme qui se coupe de son habitat intérieur, est un homme au fond, perdu, un homme déshumanisé, un homme remplaçable. Et cet individu-là, qui est-il, sinon un homme sans racines ? Et là, je reviendrai à ce que nous pourrions faire se rejoindre avec les essais de Montaigne, la pensée de Simone Veil au XXe siècle, cette femme qui a su, dans ses textes, comme la condition ouvrière ou l'enracinement, comprendre que l'homme qui travaille aujourd'hui dans les sociétés, quelles qu'elles soient, qu'elles soient celles des pays nantis ou celles du tiers-monde, est un homme qui est broyé par un système qui lui fait perdre peu à peu son corps et son esprit, parce que c'est inséparable. L'esprit et le corps sont reliés. Pour s'habiter soi-même dans cette maison intime, reliée à une sphère transcendante, à un tout autre, il est nécessaire de réapprendre à travailler, à donner du sens au travail, en faisant finalement en sorte que l'homme puisse en être de son travail et y être. Et ce sens que l'on donne au travail aujourd'hui, il est essentiel dès lors que l'homme qui souffre au travail, quelles que soient ses souffrances et leur mode de manifestation, c'est un homme qui crie, qui appelle à son humanité, c'est-à-dire à ce que celle-ci peut lui renvoyer d'un désir plus profond, plus lointain, que le désir simplement de se nourrir ou du bien-être ou des loisirs. Ce désir que l'homme a au tréfonds de son être, c'est ça cette conscience intime et cet habitat intérieur, un désir de grandir en humanité. Et il est impossible de penser cette élévation sans les autres. Or, le lien fraternel, puisque c'est aussi un concept de nos républiques, issu du christianisme, liberté, égalité, fraternité, qu'est-ce qu'il est devenu ce lien fraternel dès lors qu'on veut toujours manger des territoires, toujours les richesses de l'autre, qu'on fait des guerres, au nom de principes soi-disant justes et qui sont profondément injustes, puisque l'injustice se construit sur une forme de solipsisme ou d'isolement qui vise à dire « l'autre est un ennemi ». Si on pense l'autre comme un ennemi, on est complètement dans le sens contraire d'une écosophie. Oui. L'autre devient un socius, disait déjà Félix Guattari, et du socius, nous passons au prochain, comme le disait Paul Ricoeur. Or, en fait, le prochain, c'est celui qui est proche, mais lointain aussi.
Tout à fait.
Et ce lointain, c'est cette différence, et cette différence n'est pas un obstacle, mais une richesse. Ce qu'avait compris Montaigne, cela a été repris par Claude Lévi-Strauss dans Triste Tropique, un très beau livre.
Oui. Et Race et Histoire aussi. Oui.
Les auditeurs à relire. Oui. Et Race et Histoire. Et la photographe qui avait exposé son travail à l'Espace Cardin, Claudia Andujar, avait pris fait et cause pour ces populations qui habitent des territoires d'Amazonie. Et ces populations-là, elle a défendu à l'ONU leur habitat, leur langue, leur culture. Et je pense que si on arrivait à reconstruire une économie sur les fondements éthiques et responsables d'une écosophie, on ne penserait plus en termes de possession et de propriété, on penserait en termes de partage et de fraternité. C'est pas un discours utopique et idéaliste, je ne crois pas. Oui. C'est une réévaluation, une conversion de notre regard.
Oui, oui, tout à fait. Donc si on revient un petit peu à ce que nous disions au départ, pour citer Arne Naess, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Écologie, communauté et style de vie », voilà ce qu'il dit concernant un renversement de la perspective, et notamment anthropocentriste. L'homme ne se situe pas au sommet de la hiérarchie du vivant, mais s'inscrit au contraire dans l'écosphère, comme une partie qui s'insère dans le tout. On voit bien à travers notre discussion, on touche là je crois que là, on met en question le un, cette espèce de un qui fait que toute pluralité, toute diversité aujourd'hui est balayée, semble vouloir être balayée, au profit d'un modèle unique d'existence, au profit de modes de vie, donc de culture, hein, qui se ressemblent toutes, enfin une culture pour toute une planète. Au contraire de ces, alors je reprends un peu cette expression que je crois avoir lue chez Jean-Claude Martin, mais au contraire de ces plurivers, puisqu'en fait nous sommes dans des univers. Notre planète, c'est déjà la multiplicité d'univers culturels et de manières d'habiter cette planète. Par l'absence de pensée véritablement écologique au sens de l'écosophie, est voué à disparaître. Donc c'est vraiment ce plurivers, hein, ce pluriel des modes d'habiter la planète,
oui.
Qui est en jeu dans cette absence de réflexion. Là, on pourrait dire philosophique, hein, puisque le terme d'écosophie par Guattari, voilà, ça a vraiment une force que l'écologie politique actuelle ne donne pas, ne rend pas compte.
Oui, cette absence, je dirais, de pensée méditante,
oui,
au profit d'une pensée calculante.
Oui.
Et je crois que quand tu parlais de convertir ce regard anthropocentré et ethnocentré, il faut se garder d'aller dans des relativismes. Je crois que l'homme a ce site particulier parmi tous les vivants de cette planète d'être conscient de ce qu'il fait, d'être appelé à l'être du moins. Mmh. Et il a à en répondre. Et donc il a à répondre de cette nature qui lui est confiée et des vivants avec elle. Et de fait, cet homme responsable a une place à part, pas de dominant, de tout-puissant, mais une place qu'il doit savoir tenir en cela qu'il a une charge de veilleur. Et cet homme veilleur, s'il n'est pas éveillé, mais il ne veille rien, il est vigile de rien,
oui.
Il est rivé à ses besoins, et ça devient le pire des vivants.
Oui. Mais moi, alors moi, pour reprendre un petit peu ton... Moi, je suis très utopiste, hein, ou peut-être un peu idéaliste à la montagne, c'est-à-dire que je pense que ce que tu viens de dire, ça s'adresse à une humanité, c'est-à-dire l'humanité dite occidentale, celle qui a finalement donné sa liberté au profit d'État et d'économie. Qui viennent dominer une autre partie d'humanité, d'une humanité qui, elle, n'a rien demandé. Là, je pense que cette adresse s'adresse justement à un certain type d'humanité qui s'est voulue dominatrice dans l'histoire. Parce que je crois, moi, en tout cas, pour avoir lu des gens comme Pierre Clastre, notamment, voilà, dans La société contre l'État, qu'on a beaucoup à apprendre de ces sociétés qui ont su vivre, justement, en harmonie. Mais voilà, tant pis, ce sont des termes qu'on n'emploie pas, mais c'est pas grave, mais en harmonie et en connaissance d'ailleurs, hein, une véritable connaissance de l'environnement au sens de la nature, voilà, des oui. animaux, des arbres, etc. Et cette... alors, on pourrait pas parler de volonté, hein, si on écoute bien Pierre Clastre. Est-ce que c'est véritablement conscient? On ne sait pas. Mais en tout cas, ce savoir, hein, instinctif que la nature est essentielle à une vie, tu parlais d'un souverain bien, à une vie bienheureuse.
Oui, oui, oui.
Et c'est quelque chose comme cela que l'humanité à laquelle toi et moi nous appartenons, sans l'avoir vraiment décidé, c'est quelque chose comme cela que nous avons perdu. Peut-être. Alors, nous...
Peut-être, mais je crois qu'une vie authentiquement spirituelle nous fait rejoindre ces cultures, ces hommes de ces cultures, ces sages qui ont... réappris à vivre avec la nature, et même si l'homme citadin est éloigné de la nature par rapport à voilà, des personnes qui vivraient plus pleinement, hein, au sens propre, dans un milieu naturel, je crois que cette nature profonde, on la retrouve dès lors qu'on est relié à l'intime de soi. Mmh. Et cet intime de soi n'est pas un isolement, c'est une manière de se relier tous ces autres, d'autres cultures, et d'intégrer dans cette diversité le cœur humain, C-H-E-U-R, Et je crois que toute personne habitée, quelle que soit sa religion ou pas, son mode de vie spirituel, c'est une personne qui est profondément à l'écoute des différences et qui ne cherche pas à s'imposer. Quand on cherche à s'imposer, quand on cherche effectivement cette espèce de possession et de maîtrise, je crois que c'est là peut-être que nous perdons pied et que nous nous prenons pour ce que nous ne sommes pas. Et dans cette hiérarchie des valeurs que les Occidentaux ont souvent mises hein, dans l'histoire, tu as raison, peut-être qu'il nous faut repenser voilà, que ce qui n'est pas de notre usage, pour reprendre les termes montaigniens, n'est pas moindre, mais autre. Et cette altérité devant nous est une richesse et non un appauvrissement. Et cette richesse-là, s'en laisser enrichir, c'est réapprendre que cette intelligence méditante dont je parlais, pour reprendre le terme heideggerien, dans Sérénité, question 3, c'est une intelligence de l'amour, tout simplement, un amour que nous pouvons non pas idéaliser ou galvauder, mais vivre dès lors qu'il est nourri de conscience et d'intelligence.
Oui, je suis tout à fait en accord avec ce que tu viens de dire. Je pensais à l'instant, puisqu'on parlait de la question de l'autre, hein, je pense d'un seul coup à cette... parce qu'on a parlé d'essayer de... Cet homme majoritaire, cet homme qui s'est voulu dominant, on disait à l'instant, mais voilà, ça a été au détriment d'autres cultures et d'autres pensées, d'autres modes d'habiter le monde. Et il faudrait qu'en nous fassions aussi cohabiter cet autre qu'est l'animal. Malheureusement, oui. L'émission ne va pas tarder à terminer, mais nous avons encore une ou deux minutes. Mais citons cette phrase de Jacques Derrida, « Cet animal que donc je suis ». Très belle phrase qui vient un petit peu remettre en question le jeu cartésien par trop auto-centré sur l'humain. La force de Derrida et de tant d'autres, c'est d'avoir, et on pourrait parler d'Elisabeth de Fontenay aussi, hein, c'est d'avoir remis en l'humanité l'animalité au centre de nous-mêmes. Hein, essayer de prendre cet autre en nous qui sommes devenus par volonté ou simplement parce que nous le subissons, nous qui sommes devenus dominants, eh bien nous devons faire entrer en nous cet autre, ces autres dont l'animal fait partie.
Oui, et l'animalité, mais bon, Jacques Derrida n'est pas là. Pour moi, quand je lis cette phrase et quand je lis son livre, hein, aux éditions Galilée, je crois, l'animal que donc je suis, qui commence par cette honte, l'épreuve de la honte devant son chat.
Tout à fait, absolument magnifique.
Tout nu. Bon, c'est un très beau texte, mais l'homme ne vivra jamais la même animalité qu'un animal.
Oui, oui.
C'est une animalité qui, moi, me permet de repenser l'habitat dont on parlait au début de l'émission, c'est-à-dire une habitation de soi avec son incarnation. Nous ne sommes pas de purs esprits, mais nous ne sommes pas des bêtes non plus.
Ça me fait penser au devenir animal de le zooguatarien. Hein. L'homme a à devenir autre que ce... qu'une certaine définition qui là justement tu l'as très bien rappelé en faisant la différence entre la rationalité et la méditation, c'est-à-dire nous avons été définis, essentialisés dans la philosophie classique comme homme rationnel, et bien non, il faut devenir autre que cette raison calculatrice du métrone, de la métrique, de la classification.
Oui, et c'est pour ça que si je peux me permettre, je terminerai par un texte de Martin Heidegger, très court, extrait de ses questions 3, hein, la sérénité.
Nous avons 2 minutes, Isabelle.
Lorsque nous dressons...
Une nous dit-on.
Lorsque nous dressons un plan, participons à une recherche, organisons une entreprise, nous comptons toujours avec des circonstances données. Nous les faisons entrer en ligne de compte dans un calcul qui vise des buts déterminés. Nous escomptons des résultats définis. Ce calcul caractérise toute pensée planifiante et toute recherche. Une pareille pensée ou recherche demeure un calcul, la même où elle n'opère pas sur des nombres et n'utilise ni simple machine à calculer, ni calculatrice électronique. Or, peut-être avons-nous à redéfinir la pensée qui calcule n'est pas la pensée qui médite. La pensée qui médite, la pensée de simple méditation, est une pensée lente et patiente, et c'est une pensée qui va au défi des résultats, des performances, une pensée qui ne calcule plus, une pensée qui prend le temps, une pensée patiente. Merci à tous.
Merci beaucoup. Merci aux techniciens qui nous ont aidés à faire une magnifique émission. Merci aux auditeurs.
Merci, merci Axel. Merci Tom. Et j'invite vraiment les lecteurs à relire ce texte d'Heidegger, de redéfinir cette pensée qui doit, elle aussi, comme le paysan, savoir attendre que le grain germe et que l'épi mûrisse.
Merci. Bonne journée à tous. À très bientôt sur Radio Aligre. Merci.
Merci.
الشاش غيرست أقل سلوا الأسراف شوغتاي هان الكاس أزر شلهي أهدي زنتا
Arjan poli Ari izanav
Suyamata Yihan elkaz Azar sulhi Arti izantaz Azar sulhi Arti izantaz.